Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bienvenue, une heure pour vous informer et vous exprimer. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, la Russie a bombardé massivement l'Ukraine cette nuit. Il y a au moins 4 morts à Kiev. Volodymyr Zelensky évoque plus de 400 drones et 40 missiles tirés sur son pays. Attaque qui intervient quelques jours après une vaste offensive ukrainienne contre des bases aériennes russes. À suivre aussi les conséquences très concrètes du travel ban et des restrictions ordonnées par Donald Trump contre 19 pays, dont le Venezuela, où certaines familles qui ont des proches aux États-Unis se retrouvent séparées. Nous serons en République démocratique du Congo, où Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou ont discuté hier au Palais de la Nation, quasiment 8 ans que les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés. Et puis des médecins généralistes sonnent l'alerte en France face à la pollution au cadmium. Un tiers des enfants français sont contaminés par ce métal, soupçonné d'être responsable de la hausse de certains cancers. Le président ukrainien demande ce matin de faire pression sur la Russie dès que possible. Après les bombardements massifs cette nuit, ils ont visé plusieurs régions ukrainiennes, faisant 4 morts et 20 blessés à Kiev. Selon Volodymyr Zelensky, plus de 400 drones et 40 missiles ont été tirés. Ces bombardements qui interviennent quelques jours après une attaque spectaculaire contre des aérodromes militaires russes. Cela ressemble bien à la réponse qu'avait promise Moscou. À Odessa, la correspondante de Pierre Lorenzo.
Missiles balistiques, missiles de croisière, drones kamikazes Shahed. Le détail des armes utilisées cette nuit par la Russie n'est pas encore connu, mais Moscou a puisé dans tout son arsenal pour mener cette attaque massive, dont le bilan est déjà lourd. À Kiev, l'alerte a sonné vers 1h du matin. La population a ensuite entendu des explosions pendant plusieurs heures. Des débris ont provoqué un incendie dans un quartier résidentiel, d'après le maire Vitali Klitschko. Mais cette attaque ne s'est pas limitée à la capitale. Dans l'ouest du pays, la région de Ternopil a subi l'attaque la plus massive à ce jour, selon les autorités locales. Ce matin, des quartiers de la préfecture se trouvent toujours sans électricité. C'est la première attaque de cette ampleur depuis l'opération ukrainienne contre les bombardiers stratégiques russes dimanche dernier. Le Kremlin avait averti qu'il riposterait à cette humiliation, sans dire quand ni comment il le ferait. Les frappes de cette nuit sont-elles sa réponse? On peut le penser, même si ce n'est pas la première fois que la Russie lance des frappes massives à travers l'Ukraine. Pierre Alonso, Odessa, RFI.
Une bataille de mots et d'égo reprise par la presse mondiale. Rien ne va plus entre Donald Trump et Elon Musk. Quelques jours après le départ de ce dernier du gouvernement, Elon Musk qui a fustigé la loi budgétaire 2026 voulue par Donald Trump, la qualifiant d'abomination répugnante. Donald Trump a lui qualifié Elon Musk de fou et menace d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux du patron de Tesla et SpaceX. Elon Musk qui a lui évoqué la possibilité de mettre hors service la capsule de SpaceX utilisée par la NASA pour acheminer des astronautes vers la station spatiale internationale. Et voilà qui ne va pas arranger l'humeur de Donald Trump. La justice américaine a suspendu il y a quelques heures sa mesure visant à interdire l'entrée aux États-Unis de nouveaux étudiants internationaux venus suivre les cours à l'université d'Harvard. Cette mesure de Donald Trump qui avait été annoncée au même moment que le travel ban, les ressortissants de 12 pays sont interdits de séjour aux États-Unis à partir de lundi prochain. Des restrictions ont été annoncées également pour 7 autres pays, dont le Venezuela. Les États-Unis ne vont plus octroyer de visas de tourisme, d'affaires ou étudiants. Un nouveau coup dur pour les Vénézuéliens dont le statut de protection temporaire, dit TPS, leur avait déjà été retiré par l'administration Trump. Une décision qui déchire des familles entières. Reportage à Caracas, Alice Campagnol.
Pourquoi renouveler mon visa maintenant? Pour pouvoir voir mes enfants, une à deux fois par an.
Elisabeth, comme beaucoup de mères vénézuéliennes, vit séparée de ses enfants déjà adultes qui ont demandé l'asile aux États-Unis. Face à la crise depuis 15 ans, environ 8 millions de personnes ont quitté le Venezuela.
Qui m'est parti, ça va faire 12 ans et Karen, ça va bientôt faire 8 ans.
La cinquantenaire avait jusqu'à présent un visa valide, expiré en octobre. Il est en processus de renouvellement. Tous les papiers ont été envoyés à Bogota, en Colombie, l'ambassade américaine la plus proche. Il ne lui manque plus qu'un entretien au consulat. Mais avec le travel ban, ses plans pourraient bien tomber à l'eau.
J'ai mon entretien le 14 janvier 2026, si Dieu le permet. Et si ça ne marche pas, je ne sais pas. Moi, je crois en Dieu, mais je le répète, je veux juste voir mes enfants.
Ces enfants ne peuvent pas rentrer au Venezuela car en cas de demande d'asile, il est logiquement impossible de rentrer dans son pays d'origine. Ils sont plus de 800 000 Vénézuéliens comme Keren et Kim, les enfants d'Elisabeth, à vivre aux États-Unis. 800 000 personnes qui ne pourront vraisemblablement pas recevoir leur famille dans les prochaines années. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
RFI 10h passé de 5 minutes, direction à présent la République démocratique du Congo avec une rencontre qualifiée de chaleureuse hier, celle entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu, c'était au Palais de la Nation. Cela faisait quasiment 8 ans que les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis leur rupture avant la présidentielle de 2018. Mais alors que le pays traverse une grave crise sécuritaire, en début de semaine, l'opposant a tendu la main au chef de l'État, Alexandre Abranjon.
Trois jours après avoir demandé publiquement une rencontre directe avec le chef de l'État, Martin Fayulu a été reçu hier au Palais de la Nation. « Je suis content de vous voir et nous allons échanger à cœur ouvert », a lancé le président Tshisekedi en accueillant son visiteur. Une poignée de main, une accolade suivie de 2 heures d'entretien. À l'issue de la rencontre, l'opposant a évoqué la gravité de la situation. « Le pays est dans une phase très difficile », a-t-il affirmé devant la presse. « Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie, des gens qui luttent pour leur pays », a déclaré l'opposant. Martin Fayulu a appelé à un dialogue social et exhorté le chef de l'État à rencontrer les responsables religieux, notamment la CENCO et l'ECC, porteurs d'une proposition. Selon l'opposant, le président Tshisekedi a promis de répondre rapidement à cette demande. Cette rencontre intervient alors que le groupe armé AFC M23 s'est emparé en début d'année de vastes pans de l'est du pays, provoquant une importante crise humanitaire.
Alexandra Branjon du service Afrique d'RFI. En France, une plainte contre X pour meurtre et génocide déposée aujourd'hui par une grand-mère accusant les autorités israéliennes d'être responsable de la mort de ses 2 petits-enfants de nationalité française dans la bande de Gaza. C'était en octobre 2023. Cette plainte avec constitution de partie civile est déposée au pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris et vise à obtenir la désignation d'un juge d'instruction. Toujours en France, cette alerte face au cadmium aussi toxique que le plomb et le mercure. Ce métal est soupçonné d'être responsable de la hausse des cancers du pancréas, notamment chez les jeunes. Des médecins généralistes ont sonné l'alerte hier. Un scandale qui touche la France, mais qui concerne toute l'Europe. Pourtant, Elena Loison, l'Union européenne lutte contre le cadmium depuis maintenant 20 ans.
Oui, son usage est limité en Europe depuis 2006 et une directive sur l'interdiction de certaines substances toxiques. Ce texte interdit alors la présence de cadmium dans les plastiques, la peinture, les bijoux et fixe de premiers seuils limites de cadmium dans la nourriture. À l'époque, la Commission dénonce un risque inacceptable pour l'homme et l'environnement provoqué par ce métal. Depuis, la réglementation européenne n'a cessé de se durcir. En 2013, les eurodéputés votent son interdiction dans les batteries, puis la Commission décide de s'attaquer à sa présence dans les pesticides, principale source de contamination via l'alimentation. Mais comme sur beaucoup d'autres sujets, difficile de mettre les 27 pays membres d'accord. À l'issue de plusieurs années de discussions intenses et face au lobby des fertilisants et des agriculteurs, il est finalement décidé que les engrais ne doivent pas contenir plus de 60 mg de cadmium par kilo, loin des 20 mg préconisés par les experts. Ce seuil devrait être réévalué en 2026, mais sans certitude qu'il soit abaissé, tant certains États membres luttent pour démanteler le Green Deal, le texte censé diminuer de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne.
Elena Loison, toujours en France, c'est officiel depuis cette nuit. Le Parti Socialiste confirme la réélection d'Olivier Faure avec 50,9% des suffrages exprimés. 4e fois qu'il est élu à la tête du PS. L'élection s'est jouée à quasiment rien face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, qui a reconnu sa défaite. Enfin, les sports. L'équipe de France de football battue par l'Espagne hier soir en demi-finale de la Ligue des Nations 5-4. Élimination spectaculaire au terme d'un match fou. Et puis Roland Garros s'est placé aux demi-finales hommes aujourd'hui. Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti et puis Novak Djokovic fera face, lui, à Yannick Sinner. 10h10 à Paris, tout de suite, c'est Juan Gomez.
8h10, 100 ans universel, c'était le journal de Jeanne Bartoli. Restez avec nous.